Déjà entendu ce matin, on va poursuivre un petit peu et on va lire juste quelques versets dans le livre des Actes, chapitre 1er. On va juste lire trois versets. Voilà. Le livre des Actes. Alors j'aime bien à rappeler, on a tous le titre, le livre des Actes des apôtres, on est bien d'accord, hein ? Mais il serait plus juste de dire les Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Je pense que déjà pour nous, ça peut nous aider aussi dans notre marche avec le Seigneur. Et voilà ce qu'il est dit en introduction. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné aux ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants en leur donnant de nombreuses preuves, pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Alors le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des disciples, des apôtres, c'est quand même un récit essentiel pour nous, hein, pour notre foi, puisqu'il relate quand même la propagation de l'Évangile dans ce bassin méditerranéen. Mais en quelques années, alors sans Internet, sans avion, sans argent, sans moyen de communication, sans médias, en quelques années, eh bien l'Évangile va se répandre d'une façon extraordinaire. Par quel moyen, par quel véhicule, par quel média? Tout simplement par la puissance, l'autorité, la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui va agir, qui va intervenir, bien sûr, au travers des disciples, au travers des apôtres, etc., pour que l'Évangile puisse ainsi être propagé de cette manière. Et ce récit, il est essentiel, et on le doit à un homme, ce récit, un homme dont le nom est cité seulement trois fois dans le Nouveau Testament, hein, par l'apôtre Paul. Vous savez qui a écrit le livre des Actes, et puis il y a un autre livre là qui est cité avant. Qui est cet homme? C'est Luc. Voilà, c'est Luc. Et on va découvrir à travers son histoire, eh bien finalement, quel chrétien il a été, pour nous encourager, nous aussi, ce matin, comme on l'a entendu, à être un instrument de propagation de la bonne nouvelle, de l'Évangile, là où Dieu nous a placés. Et pour cela, on va considérer trois regards. Le regard que Luc se porte sur lui-même, le regard que Paul porte sur Luc, et puis le regard que Dieu porte sur Luc. Et à travers ces trois regards, eh bien, on va considérer de quelle manière, finalement, Luc, ce matin, peut nous encourager. Alors, quel est le regard que Luc porte sur lui-même? Comment Luc, se considère-t-il? Quelle image a-t-il de lui? Alors, si on se poserait la question ce matin, hein, pour nous-mêmes, c'est pas toujours facile d'être objectif. Alors, face au miroir, face peut-être au reflet ou à l'image que reflète devant les autres, comment on se considère ce matin? C'est pas évident comme question, hein, si on veut y répondre avec objectivité. Alors, certains se valorisent, on est bien d'accord, et puis certains se dévalorisent face à eux-mêmes, le regard qu'ils portent. Certains se trouvent beaux, voilà, ça peut arriver, hein, et c'est peut-être vrai, et puis d'autres se trouvent moches. Certains se sentent supérieurs aux autres, une intelligence au-dessus de la moyenne, un QI, d'ailleurs c'est plus une référence, il y a d'autres références maintenant, mais à 235, 240, 250, etc. Et puis d'autres pensent être complètement, intellectuellement, socialement déconnectés, etc. Et c'est vrai que le regard qu'on porte sur nous-mêmes n'est pas toujours objectif, et ce n'est pas toujours évident d'avoir ce regard objectif. Comment Luc se voit-il? Comment se considère-t-il? C'est intéressant comme question, parce que Luc n'est pas un apôtre. Il n'a pas été choisi par Jésus, il ne fait pas partie du 12 de départ. Luc, on nous dit, vous le savez, que c'est un médecin. On ne le cite que trois fois dans l'Écriture. On verra tout à l'heure les trois textes, c'est Paul, hein, qui en parle dans des salutations, mais son nom n'apparaît pas autrement dans les Écritures, etc. On ne sait rien de sa conversion, comment il s'est converti, où il s'est converti, quand est-ce qu'il s'est converti. On ne sait pas grand-chose, on ne sait rien du tout. On sait seulement que c'est un médecin d'origine païenne, c'est un non-juif, et puis on lui attribue également l'évangile de Luc. J'oserais dire, c'est tout ce qu'on connaît de Luc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment Luc se voit-il? Eh bien, si on lit Luc 1:1-4, on va, à travers ce texte, eh bien, avoir quelques indices. Il parle dans son premier texte d'un certain Théophile, vous rappelez? Et puis là, voilà ce qu'il dit dans l'évangile de Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il est d'abord question dans ces deux livres, le livre des Actes et puis l'évangile de Luc, d'un destinataire. Ces courriers, en tout cas ces nombreuses pages, sont destinées à un certain Théophile. Ce n'est pas pour une église, hein, une communauté. D'ailleurs, lorsque vous lisez les autres livres, à part Hébreu, à chaque fois, les auteurs disent, voilà, de la part d'eux, de la part de Jacques, de la part de Jean, de la part de Paul, etc., de la part de Pierre, ils s'identifient, mais ici, j'oserais dire, il n'a pas besoin de s'identifier de cette manière, parce qu'il adresse son courrier, en tout cas ses courriers, à son ami qui est Théophile. Et la première pensée pour nous ce matin, c'est que pour lui, j'ai dit ça comme ça, cet homme mérite qu'il dispose de tous les éléments possibles pour grandir dans la foi. Il y a 24 chapitres quand même dans l'évangile de Luc, hein, c'est un moine qui les a, à je ne sais plus quel siècle, hein, qui a fait la division de la Bible, et puis il y en a quand même 28 dans le livre des Actes. 24 et 28, tac, 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 ça fait combien? Vous rendez compte? Hein, ce nombre de chapitres, on va dire, pour un seul homme. Pour un seul homme. Et quelle amitié ici, pour cet ami, quelle amitié, quel dévouement. Le proverbe 17:17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre quoi? Comme un frère. Il se montre un frère. Et puis le proverbe 12:26, le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est propager aussi la bonne nouvelle, c'est développer, c'est entretenir aussi des amitiés. C'est entretenir des amitiés, y compris même, bien sûr, par rapport à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez dans votre cercle social, là où vous, dans votre quartier, dans votre travail, eh bien, des hommes, des femmes qui ne sont pas nécessairement tous chrétiens, mais qui peuvent être des amis. Et envers ses amis, eh bien, comme Luc, nous sommes appelés à avoir ce regard de bienveillance et finalement à pouvoir les conduire à l'évangile de la même manière. Ils méritent, je vais dire ça comme ça, de connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit hein, dans Luc 16, verset 9. Il est étonnant quand même ce passage. Il dit ceci, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes de ce monde. » Faites-vous des amis. Ne restez pas, j'allais dire, centré sur vous-même, mais là aussi, bien, partagez votre amitié, vos dons, vos capacités, pour que eh bien, vous puissiez aussi partager la bonne nouvelle. Un autre aspect du regard que Luc a sur lui-même est rappelé par Philippiens 2. Connaissez bien ce texte de Philippiens, mais on va se le relire ce matin. Philippiens 2, verset 3. 4 nous dit ceci, ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Luc n'est pas imbu de sa personne, de son statut, de son statut de médecin. Il ne s'en sert pas pour s'imposer au milieu de cette équipe missionnaire, pour revendiquer une place. Écoutez, je suis quand même médecin, Hein, même à l'époque, bon, si la formation n'était pas obligatoire, il avait certainement fait quand même quelques années de fac de médecine, bon, je vais dire ça comme ça, mais il n'impose pas son statut. Il ne revendique pas. Mais la Bible nous dit qu'à travers eh bien, ce qu'il considère dans cette équipe missionnaire, il va considérer également les intérêts des autres. Il va considérer les autres comme étant supérieurs aussi à lui-même. Et ce matin, bien, son intelligence n'est pas un motif pour imposer. Quand je dis son intelligence, c'est l'intelligence que Dieu lui a donnée. Quand je dis ses dons, ses talents, ce sont les dons, les talents que Dieu lui a donnés. Eh bien, tout cela, au lieu de l'imposer, de le revendiquer, il va les mettre simplement au service du royaume de Dieu. Et ainsi, bien, Luc a ce regard sur lui-même, il n'est pas un but de sa personne. On connaît tous ce genre de relation par rapport parfois à certaines personnes, et ça peut arriver aussi que dans le milieu chrétien, vous ayez cette réalité hein, où vous êtes enseigné, la personne qui est en face de vous, elle sait tout, elle connaît tout, etc. Et bon, c'est compliqué parfois la relation, mais la Bible nous demande d'avoir eh bien, un esprit d'humilité. Un esprit d'humilité. Hein, Romains 12, 3 nous dit ceci, « Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez-vous dans cette sagesse, gardez une sage estime chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. » Et c'est aussi le regard que Dieu nous demande d'avoir sur nous-mêmes, un regard qui est mesuré à la mesure que des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Parce que même ces dons, ces talents, ces ministères que Dieu nous donne, ça ne vient pas de nous. C'est lui qui donne. Alors pourquoi s'en glorifier ? Pourquoi s'en glorifier ? C'est Dieu qui donne, et ainsi, comme Luc, eh bien, d'être un instrument de bénédiction. Et puis, Luc va se mettre au service de Dieu. Il va mettre au service de Dieu sa rigueur, son soin, son exigence, son analyse, dans la transmission des faits, dans ce qu'il va entendre, dans ce qu'on va lui rapporter, dans la manière dont il va vérifier les choses. Et j'aime à me rappeler que Luc va être exigeant avec lui-même dans la manière dont il va transmettre des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il ne va pas transmettre des choses qui sont trompeuses, incomplètes, voire toxiques. Mais il nous est dit là, le texte, qu'il va soigneusement faire des recherches, rigoureusement, exactement. Et ainsi, il est sûr de transmettre quelque chose eh bien, qui vienne du royaume de Dieu et qui va apporter quelque chose de plus au royaume de Dieu. Et je crois qu'on doit apprendre, dans le domaine de l'exigence, cette exigence concernant la foi, de faire attention à ce que nous transmettons, à ce que nous communiquons, pour que ce que nous communiquons soit vrai, soit juste, soit constructif. On entend tellement de choses, hein, à droite et à gauche, etc., où ce sont des paroles qui sont parfois toxiques, qui sont mensongères, qui sont trompeuses, qui n'édifient pas. Mais Luc a tellement soin de cet ami Théophile que ce qu'il veut lui rapporter, il veut être sûr que ce soit quelque chose qui va l'édifier, l'encourager, qui soit juste et qui va permettre de soutenir sa foi. Je vais réhabiliter Thomas, parce que souvent Thomas, on le traite d'incrédule. Et le texte, c'est vrai, de Louis II dit ceci, lorsque Jésus le voit, il dit « Thomas, ne sois pas incrédule ». Mais le texte de base, plus littéral, c'est « Thomas, fais attention, ne sois pas sur le chemin de l'incrédulité, ne deviens pas incrédule ». Ce n'est pas pareil. Et pourquoi je dis ça ? Parce que Thomas, il est exigeant. Vous vous rappelez ? Il n'est pas là hein, lorsque la première fois Jésus se présente au milieu des disciples, et c'est la deuxième fois que Jésus. Et il va dire ceci, si je ne vois dans son corps la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, et je ne croirai pas. Et je dis ça, Thomas est exigeant parce que pour lui, sa foi nécessite d'être nourrie par les exigences de la croix, de l'œuvre de la croix. Il y a quelque chose qui, pour Thomas, de toute façon, n'est pas transigeable, c'est les marques de Jésus, c'est ce que Christ a accompli sur la croix du calvaire. Et dans cette exigence, eh bien, Jésus va lui montrer. Et ce matin, nous devons être exigeants, là aussi, par rapport à notre foi, ce que nous nourrissons, mais ce que nous partageons, ce que nous communiquons. Il y a cette chose comme ça à droite, à gauche, qui ne sont pas justes et qui peuvent aussi être toxiques dans la foi. Mais ce matin, oui, soyons exigeants dans ce que nous... Et Luc avait cette exigence sur lui-même. Il était exigeant pour transmettre le meilleur à son ami Théophile, pour que Théophile eh bien, soit fortifié dans sa foi. Hein, vous connaissez 1 Timothée 3,15, l'Église, c'est la colonne et l'appui de quoi ? De la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Et puis, une dernière pensée. Alors, si on ajoute les deux formulations de Luc dans le livre des Actes et dans l'évangile de Luc concernant Théophile, on a ceci, mon cher excellent Théophile. Hein, si on fait cher excellent Théophile, vous vous rendez compte ? Cher, ça nous parle bien sûr d'affection. Il y a une relation particulière. Et là aussi, dans ce domaine, eh bien, ce matin, nous sommes appelés à nous chérir les uns les autres. Et puis, il dit ensuite, cher, excellent, excellent. Quand je plaisante un peu, j'ai dit, j'aimerais bien qu'on m'appelle mon révérend. Ça fait très classe. Bon, mon excellence, je ne suis pas encore arrivé à mon excellence. Hein. Mais là, Luc dit à Théophile, excellent, excellent Théophile, ça nous parle de sa considération. Ça nous parle comment Luc considère Théophile. C'est extraordinaire quand même, cette considération, hein, dans ce sentiment de respect. Et puis Théophile, vous savez ce que ça veut dire Théophile, hein ? Littéralement, c'est l'ami de Dieu. Ça nous parle de communion. On a le même Dieu, et tu es mon ami, et en Dieu, ça nous parle de communion. Et voilà le regard hein, que Luc peut avoir sur lui-même lorsqu'il appelle ainsi hein, mon cher excellent Théophile, hein, que ce matin, bien, nous puissions nous estimer également les uns les autres de cette manière, hein, mon cher excellent Théophile, l'ami de Dieu. C'est le regard, en tout cas, que Luc sur lui-même, il n'est pas un but de sa personne, il sert avec les dons que Dieu a mis à sa disposition, et puis il devient un équipier là aussi auprès de l'apôtre Paul. Alors justement, l'apôtre Paul, on en parle, quel est le regard que Paul porte sur Luc ? Parce que là aussi, eh bien, il faut un autre regard. Alors il y a deux textes qui vont nous y aider, c'est Colossiens, au chapitre 4, verset 14. On est dans les salutations, Paul salue plusieurs frères et sœurs en Christ, et puis voilà ce qu'il dit au verset 14. Là, on avait notre cher ami Luc. Voilà, ben c'est une belle traduction aussi. Le médecin, Démas, le médecin, et puis Démas vous salue. Une autre version dit ceci, donc, il parle du médecin bien-aimé. Le médecin qui m'est très cher. Hein, et puis là, comme on l'a lu ici également, mon cher ami Luc. Il y a la même considération. Il y a la même considération ici que Paul porte à Luc. Et ainsi, eh bien, à cette époque gréco-romaine, hein, la médecine, alors, elle allie le pire et le meilleur. Voilà, elle allie le pire et le meilleur. C'est le charlatanisme, ou alors certains étaient quand même assez professionnels. Elle allie le religieux, mais aussi le scientifique. En fait, il n'y a pas de cursus officiel. Hein. Je parlais tout à l'heure d'une fac de médecine, mais chacun est libre d'exercer un petit peu en fonction de ses capacités, de ce qu'il a vu chez tel maître ou de quelques études comme ça furtives. Mais dans la pratique, imaginez quand même, hein, y a une grande méfiance de certains face aux médecins de l'époque. Hein, vous appelez SOS médecin aujourd'hui, quelqu'un vient, vous avez non, j'ai pas de diplôme, mais c'est en cours, etc. Vous avez déjà pratiqué ? Oui, j'ai vu quelques opérations. Bon, à mon avis, vous seriez assez méfiant. Et c'est l'état d'esprit à l'époque. Eh bien, bien sûr, la méfiance. Peut-être aussi la jalousie. Ah, il a fait des études, lui, etc. Il a certaines capacités que j'ai pas. Et tout ça, méfiance et jalousie, peut-être, eh bien, est suscité malgré Luc. Eh bien, ça suscite autour de lui peut-être ce genre de réaction. Il y en a un qui comprend. Il y en a un qui comprend la méfiance. Eh bien, c'est Paul. Vous vous souvenez au début de son ministère ? Comment on a accueilli Paul ? Hein, celui qui massacrait les chrétiens, celui qui avait du sang de chrétiens sur les mains. Eh bien, on s'en est méfié. On s'en est méfié. Et ça a duré des années et des années. Jusqu'au jour où eh bien, lui aussi a été présenté, a été accueilli, a été accompagné. Et Paul sait très bien ce qui peut se passer dans le cœur de Luc, dont on se méfie, peut-être qu'on jalouse son parcours, etc., même dans le sein de l'équipe missionnaire. Alors, dans ses salutations, eh bien, Paul va le prendre sous son aile et puis il va confirmer que Luc, ce médecin, est bien son cher ami bien-aimé, est bien un bien-aimé du Seigneur. Il va l'associer à ses voyages missionnaires. Un certain Claude François, pour les plus vieux, ben, je crois qu'on est tous d'un certain âge, hein, il a chanté quoi, Claude François ? « Mal-aimé, je suis le mal-aimé ». Ça vous dit rien, ça ? Ah, il l'a chanté, hein ? Il avait un véritable malaise, on le sait, dans sa vie. Mais la Bible nous enseigne ce matin qu'on n'est pas des mal-aimés. On est au contraire des bien-aimés. On est tous des bien-aimés. Des bien-aimés du Seigneur, mais aussi bien, des bien-aimés, en principe, des uns des autres. Paul emploie souvent cette expression, hein, « le bien-aimé un tel ». Alors, si vous voulez des prénoms, pour une future naissance, je vous en donne quelques-uns. C'est tous des bien-aimés. Épaïnette, c'est pas mal, hein ? Amplias, ça vous dit rien ? Stachys, Timothée, Tichic, Onésime, Philémon, Gaius. C'est tous des bien-aimés du Seigneur. C'est tous des bien-aimés de l'apôtre Paul. C'est tous des bien-aimés de l'équipe missionnaire. Et pour nous, il y a 1 Jean 4, 7 et 8, hein, on en a même fait un chant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Paul aura ce regard sur Luc, le bien-aimé. Et puis il y a Philémon. Philémon, c'est un autre texte où il est question de Luc. Et voilà ce qu'il est dit dans Philémon. Alors c'est versets 2 à 4 dans Philémon. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul ici. Philémon. Le voilà. Et j'ai dit les versets 2 et 4 de Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, vous voyez. À notre bien-aimé Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans sa maison, que la grâce et la paix vous soient données donc de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai loupé, Luc, ou quoi ? Parce que, il est où, mon Luc ? Luc. Ah, c'est peut-être... Attendez voir. Voilà, pardon, c'est le verset 24. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, ou alors mes compagnons d'œuvre. Collaborateurs et compagnons d'œuvre, compagnons des tâches, compagnons de labeur, collaborateurs. Voilà le deuxième regard que Paul a sur Luc. Le compagnon, littéralement, c'est celui qui partage son pain, celui qui partage le pain. Et Luc, ce n'est pas un théoricien de l'Évangile. Ce n'est pas un statisticien de l'Évangile, ce n'est pas un bureaucrate de l'Évangile, mais Luc, lui, c'est un homme qui est sur le terrain. Un homme qui est sur le terrain, qui collabore, qui s'investit. Les commentateurs disent que même il avait quelques capacités de navigateur, puisque les descriptions qu'il fait, etc., font de lui vraiment quelqu'un peut-être qui a quelques capacités, mais en tout cas, il va vivre des moments forts. Il va vivre sur le terrain. À Philippe, par exemple, il est là lorsque Paul et Silas se font emprisonner. Il est là. Il vit la résurrection d'Eutychus. C'est extraordinaire. Hein, il va vivre la résurrection d'Eutychus. Vous vous rappelez cet épisode, hein, où Paul prêche un petit peu longtemps, Eutychus au bord d'une fête, et il tombe. Et je me suis dit, ça c'est moi, hein, que Luc, en tant que médecin, il va constater le décès. Parce qu'il a dit qu'il était comme mort. Et c'est le premier peut-être, il n'y a plus rien à faire. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, il va constater la résurrection. C'est extraordinaire ça. En tant que médecin, il dit « c'est fini », mais en tant que disciple de Jésus-Christ, lorsque Paul arrive, il constate la résurrection. C'est extraordinaire quand même ce que va vivre ici, bien sûr, Luc, et puis bien sûr toute cette communauté. Il est là lorsque Paul se sépare des anciens à Éphèse, vous vous souvenez, hein, ces anciens qui pleurent parce qu'ils veulent retenir Paul, etc. Ils sont à genoux sur cette plage, et puis il assiste à l'arrestation de Paul également à Jérusalem. Et puis, il est là, sur le bateau, ensuite, hein, qui le conduit jusqu'à Rome. Ils vont vivre la tempête ensemble, avec cette petite expression hein, qui leur semblait que tout était perdu. Tout était perdu. Et Luc est encore là. Et puis Luc est là lorsque, eh bien, on demande à Paul de venir en résidence surveillée hein, dans son premier emprisonnement, donc jusqu'à Rome. Tout cela nous rappelle que Paul, malgré un appel indéniable, eh bien, a eu besoin de s'entourer dans l'œuvre de Dieu. Malgré l'apôtre Paul, malgré son appel qui est indéniable, il a dû et il a su s'entourer. Et avec des compagnons d'œuvre. Et ce matin, eh bien, nous sommes tous là aussi des compagnons d'œuvre. Dans Éphésiens 2:8, hein, vous connaissez ce passage qui nous dit eh bien, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ou des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer. Afin que nous puissions les pratiquer. Chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons, des talents pour les pratiquer. Et ce matin, nous sommes des compagnons d'œuvre. Comme Luc l'était. Et puis ensuite, eh bien, on va terminer. Quel est le regard de Dieu sur Luc? Comment Dieu voit-il Luc? C'est bien le regard qu'on a sur nous-mêmes. C'est bien le regard que Paul peut porter sur Luc. Mais finalement, je pense que le plus important, c'est quand même le regard que Dieu porte sur nous. On peut se tromper nous-mêmes, hein, on peut se tromper en voyant les frères et sœurs, mais quel est le regard que Dieu peut porter sur Luc? Eh bien, dans 2 Timothée 4:11, c'est le troisième récit qui nous parle de Luc, et il est assez circonstancié, il ne dit pas grand-chose, mais il dit beaucoup de choses. Voilà ce qu'il est dit dans 2 Timothée 4:11. Il dit ceci, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Luc seul est avec moi. » C'est la dernière lettre que Paul écrit. Il n'est plus en résidence surveillée, mais désormais il est en prison. Et ce texte, de cette deuxième lettre, nous dit qu'il attend sa fin, il va bientôt mourir, il est condamné à mort. Et ici, bien, Paul se retrouve donc en prison sous un certain empereur que vous connaissez tous, hein, c'est Néron. On connaît l'histoire de Néron qui va attribuer, bien sûr, l'incendie de Rome aux chrétiens, etc. C'est dans cette période que l'apôtre Paul eh bien, va être exécuté. Alors, je pense que d'ailleurs, à cause de ces problèmes oculaires, c'est certainement Luc qui va écrire cette lettre sous la dictée de Paul. Parce que Paul a des problèmes, on le sait, au niveau des yeux, et c'est certainement Luc qui va prendre la plume et puis qui va, sous la dictée de Paul, écrire donc cette lettre. Et finalement, bien, on imagine donc que Luc soit resté à Rome et quand il a l'autorisation de visiter Paul en prison, voilà, prison romaine, ce n'est pas nos prisons actuelles, il faut nourrir les prisonniers, il faut leur faire leur linge, etc. Si on ne s'en occupe pas, personne ne s'en occupera. Hein. Ce n'est pas la prison qui va donner à manger, à boire. Et Luc, eh bien, tant qu'il peut, ses jours de visite, eh bien, il va nourrir l'apôtre Paul. Il va prendre ses vêtements en charge, lui amener des propres, le soigner également, parce qu'en prison, à mon avis, eh bien, l'apôtre Paul doit être victime de certaines maladies, etc. Et il en prend soin. Il en prend soin au quotidien, en tout cas à chaque fois qu'il peut le visiter. Luc est resté le même, il est constant, il est fidèle. Luc est fidèle. Et c'est le regard que Dieu peut avoir sur Luc jusqu'au bout. C'est le regard que Dieu peut porter sur lui, Luc, mon fidèle serviteur. Il y a un chant, un vieux chant qui nous dit, hein, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Je ne sais pas si hein, vous connaissez ce beau cantique. Dans 1 Corinthiens 4:2, il est dit ceci, or, en fin de compte, ce qu'on demande à des intendants ou des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, « Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Je te donnerai la couronne de vie. On retrouve chez Luc le même attachement qu'il a eu pour Théophile. Il a la même attention vis-à-vis de Paul. Les voyages missionnaires sont finis. Il aurait pu dire, ben, écoute Paul, moi je rentre aussi, chez moi j'ai des affaires à faire, mais il va rester. Il va rester comme dans l'ombre, il va rester emprisonné avec Paul, il va le soigner, il va s'en occuper jusqu'à la fin. Personne peut-être ne le remarque, personne n'est au courant, personne ne sait, mais peu importe. Ce n'est pas un problème pour Luc. Luc a ce regard sur lui-même, il n'est pas un but de sa personne, et il va s'attacher à Paul jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ce matin, il y a un moment donné où on va entrer dans l'éternité, et là, il y a quelque chose qui va se produire, en tout cas, c'est mon interprétation. Alors bien sûr, hein, nous serons transformés, on le sait, hein, on ne partira pas tout seul. D'abord, les morts en Christ vont ressusciter en premier, puis ensemble. Et là, l'accueil de Jésus, Matthieu 25, 21, vous connaissez à travers cette parabole, Jésus, on veut l'entendre dire ceci, eh bien, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et puis au verset 31 à 40 dans Matthieu 25, il est dit ceci également, verset 31, alors il y a toute cette parabole, etc. Mais à un moment donné, Jésus qui accueille bien ses bien-aimés, leur dit, mais Seigneur, mais je vous accueille parce que vous m'avez nourri, parce que vous m'avez donné à boire, parce que vous m'avez donné à manger, parce que vous m'avez vêtu. Et alors, ben, ceux qui sont accueillis vont dire, mais Seigneur, on a fait ça quand? Quand est-ce qu'on a fait ça? Et alors, Jésus va leur dire, eh bien, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, donné à manger, assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli et avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En soignant l'apôtre Paul jusqu'au bout, Luc a soigné Jésus. En le vêtissant, il l'a fait à Jésus. En le nourrissant, il l'a fait à Jésus. En le visitant, il l'a fait à Jésus. Et ainsi, Jésus va accueillir Paul à ce regard, sur Luc, pardon, comme un fidèle serviteur. Comme un fidèle serviteur. Alors pour conclure, Luc, ça veut dire celui qui éclaire. Celui qui éclaire. Et je crois que ce matin, bien le Seigneur nous dit, nous rappelle, nous encourage que votre lumière, pardon, Matthieu 5, 16, brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles manières d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Nous sommes chacun appelés là où nous sommes à briller, à rayonner. Et que Dieu nous aide à avoir ce regard sur notre vie, cette réalité d'humilité. Que Dieu nous aide à avoir aussi ce regard peut-être sur nos frères et sœurs, comme Paul l'aura sur Luc, de bienveillance, de considération. Et puis que Dieu nous aide à sentir ce regard de sa part où eh bien, nous sommes trouvés à ses yeux comme étant fidèles. Et ainsi, dans cette réalité d'humilité, de fidélité, d'attachement, eh bien, on va briller. On va continuer à briller. Pas de notre propre lumière, mais celle de Jésus-Christ qui approuve, qui nous approuve, comme il va approuver, bien sûr, le ministère de Paul, de Luc et des autres. Amen. Alors oui, ce matin, eh bien, peut-être que pour certains, on a du mal à se considérer devant la glace. Eh bien, rappelons-nous de Luc et du regard surtout que Dieu avait sur Luc. Amen. Et puis pour nous, peut-être, qui parfois se surestimons, eh bien là aussi, attachons-nous plutôt au regard que Dieu a sur nous, afin que eh bien, notre regard soit aussi régulé en fonction du regard de Dieu. Amen. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni et qu'il nous aide à briller dans cette vie ce matin. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, ce matin pour ta parole. Merci pour l'exemple de Luc, qui nous montre, Seigneur, là aussi, bien quelques principes pour nous. Te prions ce matin d'avoir un regard objectif sur nous-mêmes, de ne pas nous surestimer ou nous sous-estimer, mais de nous rappeler tout simplement que nous sommes tes enfants et que tout ce que tu nous donnes, tous les dons, les ministères, les talents et tout cela, eh bien, ça vient de toi. Ça vient de toi. Alors, nous voulons les utiliser simplement avec reconnaissance pour accomplir, eh bien, l'œuvre de Dieu. Te bénissons également de nous aider aussi à avoir un regard bienveillant, plein de considération, Seigneur, vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés. Te demandons pardon pour toutes les fois où ce regard a été tranchant, où ce regard où on a vu la paille et on n'avait pas vu la poutre qui était dans le nôtre. Seigneur, merci. Merci comme l'apôtre Paul d'avoir ce regard comme il l'a eu sur Luc, le médecin bien-aimé. Et puis, nous voulons surtout considérer ce matin ton regard à toi. C'est ce regard qui, là aussi plus que les autres, doit nous interpeller et doit nous intéresser. Et le regard que tu veux porter sur nous ce matin, c'est un regard là aussi qui exprime notre fidélité, notre attachement, notre loyauté, notre constance, Seigneur, à ta parole et à ton œuvre. Merci, merci Seigneur, parce que tu veux te servir de chacun d'entre nous, comme tu l'as fait pour Luc, et nous t'en bénissons encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.